Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler des petites actualités que j'ai récoltées. Alors, pas mal de petites actus, on va dire, scientifiques, entre guillemets, que j'ai pu récupérer à droite et à gauche sur ma petite veille que je fais toutes les semaines. Donc, là, c'était celle pour le podcast, hein, c'est pas celle pour le site. Donc, j'ai essayé de trouver quand même des sujets qui sont pas trop pointus. Le but, c'est pas de vous gonfler, de vous endormir ce mardi matin. Le but, c'est vraiment de vous informer, d'avoir quelques petites données supplémentaires pour avancer. Bon, avant de démarrer, comme d'habitude, la petite page de pub, vous le savez. Ce week-end est sorti un plan, un cours, une formation, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, c'est juste un contenu que j'ai fait avec les 14 plats préférés des Français. Alors, j'ai fait une recherche pour voir plus ou moins quels étaient les plats préférés des Français. Je crois que j'en avais trouvé 13 ou 14, quelque chose comme ça, 14 en tout. Et j'avais envie de vous faire une petite un petit plan où je revisitais en fait ces plats pour les rendre accessibles dans une diète, on va dire, beaucoup plus cohérente par rapport à vos objectifs fitness, on va dire santé, etc. Quand vous en avez marre de manger du blanc de poulet, haricots verts, brocoli, toutes ces choses-là, de temps en temps, de vous faire un petit plat un petit peu plus gourmand, tout en ayant les bons réflexes. Le but n'est pas de suivre essentiellement ces plats, hein. C'est vraiment le message que j'essaie de faire passer, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir avoir une plus grande flexibilité dans le choix des plats, parce qu'il y a quelque chose qui rentre en jeu quand on essaie de faire attention à ce qu'on mange, c'est l'apparence, ce qu'on a dans l'assiette, le goût, ces choses-là. Et c'est vrai que avec le temps, peut-être qu'il y en a certains, ils commencent un petit peu à se lasser des plats qu'ils consomment au quotidien. Et c'est pour ça que j'avais envie de leur montrer. Finalement, c'est quelque chose que moi je fais en fait toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, je vais prendre un plat que j'aime bien, au goût, et puis essayer de me dire bon ça, par contre, c'est pas compatible avec la diète. Ça oui, ça non, et de trier ou alors de remplacer certaines choses par d'autres pour avoir quelque chose qui est cohérent. Et en fait, quand on maîtrise un petit peu la nutrition, on est beaucoup plus flexible en fait, parce qu'on sait ce qui est bon, on sait ce qui est pas bon, enfin entre guillemets, hein, parce que bon et pas bon, encore une fois, c'est très subjectif, mais en grosso modo, on arrive à se faire quelque chose de cohérent. Donc j'ai fait ça. Vous avez un exemple sur YouTube pour voir un petit peu comment je procède. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Là, vous pouvez aller voir dans les notes de l'épisode. Et voilà. Bon. On démarre un petit peu maintenant sur les actus. Alors, les actualités que j'ai récoltées, le premier point, c'est sur la carnitine. Donc, c'est un article que j'ai vu sur le site de lanutrition.fr qui s'appelle « La L-carnitine pourrait améliorer certains marqueurs du syndrome métabolique ». Alors, je cite « Les résultats obtenus par rapport au groupe de contrôle ». La supplémentation à L-carnitine permet de réduire significativement le tour de taille. Les chercheurs ont en effet trouvé une différence de 1,9 cm entre les personnes prenant des 7 acides aminés et celles sous placebo. La supplémentation à L-carnitine permet également d'obtenir une diminution moyenne de la pression artérielle systolique de 7,41 mmHg. Donc là, c'est des mesures médicales que vous maîtrisez certainement pas, mais en tout cas voilà, c'était une petite note que j'ai mise de côté. Après, il faut savoir une chose par rapport à la carnitine, c'est qu'il y a là, c'est sur des personnes lambda entre guillemets, en surpoids ou avec syndrome métabolique, mais c'est pas sur des sportifs. Donc n'attendez pas non plus d'avoir des résultats aussi exceptionnels si vous êtes déjà sportif. N'oubliez pas que la carnitine se trouve dans beaucoup de protéines animales. Déjà, il y en a qui est synthétisée au niveau de l'organisme, mais on en trouve également dans pas mal de protéines animales, viande, œufs, poissons, etc. Peut-être que ça peut être intéressant de regarder, de creuser un petit peu pour les personnes végétariennes ou végétaliennes qui consomment pas de protéines animales, de voir un petit peu ça, de se pencher un petit peu sur la question de la carnitine. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une part d'ombre à la carnitine. Il peut y avoir des réactions hypoglycémiantes et des réactions au niveau de l'organisme autres chez les sujets entraînés qui en prennent depuis longtemps à dose régulière, etc. Donc c'est un petit peu bancal comme supplémentation la carnitine. Faut surveiller, voilà, et ne pas faire bêtement. Si vous avez par exemple, si vous faites des grosses hypoglycémies avec la carnitine, faites attention, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça sert à rien de se forcer à essayer de tirer les avantages du 1,9 cm de tour de taille en moins si vous avez beaucoup d'effets secondaires négatifs. Encore une fois, c'est une news, c'est quelque chose que je vous apporte comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, j'avais aussi autre chose que je récupère. Voilà. Alors, là, c'est du... Alors, j'ouvre l'article. C'est sur Journal of Sport Science and Medicine. J'avais noté les effets bénéfiques de l'étirement de l'entraînement de type yoga, donc le stretching sous forme de yoga, sur le stress, sur les marqueurs de stress au niveau salivaire. Donc souvent, vous savez, on fait des tests au niveau cortisol et tout, au niveau salivaire. Et pourquoi ça m'intéressait de voir ça, on va le voir un petit peu après. Alors, il disait là, en conclusion de l'étude, que les étirements de yoga, donc l'entraînement en yoga finalement, c'est la traduction brute de décoffrage là, peuvent améliorer l'activité nerveuse parasympathique et améliorer les hormones du stress. Donc l'activité nerveuse parasympathique, c'est l'activité nerveuse, associer ça, repos, détente, calme, etc. Et à l'inverse, l'activité nerveuse sympathique, c'est l'inverse, c'est excitation, stress, pas comme on l'entend toujours, mais je veux dire tout ce qui va être dans l'actif, dans le réactif même, dans le en fait, quand penser système nerveux sympathique, c'est l'inverse d'être sympathique avec vous. C'est vraiment ce qui va vous, enfin, même si ça vous aide à réagir face au stress, c'est plutôt quelque chose qui va vous mettre en tension. Et le parasympathique, c'est plutôt quelque chose qui va vous mettre en détente, repos, etc. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais déjà retenez ça comme première indication. Donc en fait, le yoga permettrait d'améliorer l'activité nerveuse parasympathique, donc le relâchement, la détente, et améliorer les hormones du stress. Par conséquent, les étirements de yoga peuvent être utiles pour compenser l'inactivité physique et augmenter l'espérance de vie de la population générale. Alors pourquoi j'ai trouvé ça intéressant de vous parler de yoga ? On n'est pas sur un podcast de yoga, mais on est dans une période de Covid-19 et une période où les salles de sport sont fermées. Et ça peut être intéressant d'inclure du yoga. Alors pourquoi le yoga ? Parce que là, il a été étudié, mais j'imagine qu'il y a d'autres pratiques qui s'apparentent au yoga qui peuvent être intéressantes également pour contrecarrer les effets de la privation de sport. Alors, il y en a qui vont se dire, mais est-ce que ça va m'aider à garder mes muscles ou est-ce que ça va m'aider à rester sec ? C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'un taux de cortisol élevé fait prendre du gras, fait perdre du muscle. Donc si on le baisse, déjà on agit un petit peu là-dessus, c'est quand même intéressant. Mais c'est surtout que si vous êtes sportif, pratiquant de muscu depuis un certain nombre de temps, d'années, etc., vous avez une forme d'habitude, vous avez habitué votre corps, votre organisme, vos récepteurs, votre cerveau à recevoir des doses plus ou moins importantes de substances qui vous font vous rendre bien. Donc vous vous sentez bien parce que vous faites du sport. C'est un petit peu quand les personnes parlent d'addiction au sport, c'est parce que quand elles n'ont pas de sport, elles se sentent mal. Mais en fait, c'est pas réellement une addiction, c'est qu'un bon comportement comme aller faire du sport quotidiennement ou on va dire 3-4 fois par semaine, vous vous sentez mieux dans votre peau, dans votre corps, au niveau psychologique et au niveau corporel, au niveau des sensations. Il y a aussi une sensation de diminution de la perception des douleurs quand on s'entraîne régulièrement, alors que quand on arrête de s'entraîner, on commence à ressentir des douleurs qu'on ignorait. Et en fait, tout ça fait que quand un sportif va arrêter de s'entraîner, il va se sentir mal. En fait, c'est tout un tas de facteurs comme ça qui vont rentrer en jeu. Et donc, il y en a qui se sont dit, bon, ben, c'est nocif finalement de faire du sport, il y a des addictions et tout, parce que ça couvre en fait un mal-être et tout ça. Moi, je pense pas. Je pense que c'est surtout qu'on a habitué son corps, le corps s'adapte, et donc du coup, il a appris à vivre avec une dose assez importante d'hormones, on va dire, j'aime pas ce mot-là, mais d'hormones ou de neurotransmetteurs stimulant le bien-être. Et quand on l'a plus, bah forcément, on a comme une petite carence, quoi. C'est notre traitement à nous, un petit peu antidépresseur, anxiolytique ou même, enfin ouais, des choses pour se détendre, quoi. Et donc le yoga, je trouve intéressant qu'il puisse, parce que l'avantage du yoga, c'est qu'il peut être fait partout, quoi. Quelle que soit la taille de votre appart, de votre maison et tout ça, pas besoin de matos, vous pouvez en faire. Donc durant cette période où votre salle est probablement fermée, enfin j'en sais rien, moi en tout cas dans le sud de la France, tout est fermé. Heureusement que je m'entraîne à domicile depuis plus d'un an maintenant, mais je pense à toutes les personnes qui ne peuvent pas aller s'entraîner. Déjà, ça c'est une première chose à faire, c'est de profiter de cette période-là pour faire un petit peu de yoga. Alors il y a une application que je vous recommande, qui s'appelle 5 minutes de yoga par jour, quelque chose comme ça. Je vais regarder, je l'ai encore sur mon téléphone, parce que alors elle s'appelle Yoga, mais dessus c'est un petit bonhomme blanc qui fait une posture de yoga sur fond bleu ciel. C'est une petite application avec des postures à tenir pendant une minute ou 40 secondes chacune. Il y en a 5 à faire par jour. C'est un bon début. Vous pouvez vous faire plusieurs circuits d'ailleurs. Si vous voulez faire 20 minutes, vous faites le nombre de circuits. En fait, vous faites ce que vous avez envie de faire, quoi. Mais ça peut être une bonne petite technique. Bon voilà, on passe à autre chose. Sachez une chose, c'est que le stretching comme ça peut vous aider un petit peu à mieux vivre la privation de votre muscu, quoi. Troisième chose que j'avais récupérée, je l'ouvre. Alors ça fait partie. Je vais vous donner le nom du journal. C'est Journal of International Society of Sport Nutrition. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc ça date de 2020, donc c'est août 2020. Je récupère. Donc voilà. Alors, c'est par rapport aux métaux lourds. Vous savez, moi je reçois énormément de questions, enfin énormément, par rapport à la durée, le temps, enfin c'est une question qui revient très régulièrement. Je peux pas dire énormément parce que c'est pas tous les jours que les gens s'intéressent à ça, mais c'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire qu'elle a une fréquence, une récurrence assez élevée. Ça s'appelle concentration sérique et urinaire d'arsenic, de béryllium, de cadmium et de plomb après une période d'entraînement aérobie de 6 mois chez les athlètes aéro qui pratiquent le cardio en gros et les personnes sédentaires. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent aux métaux lourds dans les questions que je reçois et qui souhaitent savoir comment s'en débarrasser. Et en fait, là, cette étude nous dit que le but de la présente étude était un effet possible d'une période de 6 mois d'entraînement physique en cardio sur la concentration dans le sang et dans les urines de béryllium, de cadmium et de plomb, qui sont potentiellement toxiques pour la santé, quoi. Alors, ils ont étudié 24 coureurs de fond, bien entraînés, et ils ont fait des tests avant leur période d'entraînement, donc c'est-à-dire avant qu'ils reprennent l'entraînement. Donc ils ont regardé les teneurs en métaux lourds et ils ont refait un test après. Donc c'est des sportifs quand même qui faisaient 120 km par semaine, hein. Donc c'est quand même pas mal, mais dites-vous bien une chose, c'est que c'était c'est des sportifs qui font du cardio, c'est-à-dire c'est comme vous, votre muscu, vous en faites beaucoup, eux c'est le cardio. Donc ça veut pas dire que quand vous faites que 30 km par semaine de cardio, c'est rien, c'est pas bien, non, c'est juste que eux, leur principale activité physique, c'est ça. Et ils ont montré, la conclusion, c'est l'entraînement de cardio, donc aérobie, peut constituer une méthode efficace pour augmenter efficace d'éviter finalement d'éliminer ces métaux lourds. Donc moi je pense que beaucoup de personnes se tournent vers, vous savez, alors on voyait, il y avait des algues, il y avait certaines fibres, etc., que les gens consommaient contre les métaux lourds. Encore une fois, je dis pas que ça marche pas, je dis pas que c'est pas bien, mais on reste quand même dans la stratégie de facilité, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux prendre pour évacuer les métaux lourds. Il y a une solution là que je vous donne, enfin c'est pas moi qui vous la donne, c'est les études, hein, qui en parlent. En tout cas, ça a été observé. Et ce qui est intéressant, c'est que chez des sportifs, il y a deux choses intéressantes. C'est que le sportif, quand il se remet à faire du sport de type cardio, il va améliorer finalement ses marqueurs, comme ça, donc au niveau des métaux lourds. Mais il y a également quelque chose que je note, que je repère, enfin c'est une de mes observations, c'est que finalement, un sportif, quand il arrête durant une certaine période, durant le off-saison, comme ils pourraient dire certains, eh ben ça revient. On sait aussi que les sportifs, ils ont tendance à mieux manger. Donc ça veut dire que même en mangeant mieux, on a tendance quand même à avoir ces marqueurs de métaux lourds. Mais il y a également autre chose, c'est que toutes les personnes, par exemple, qui consomment beaucoup de riz et tout, on sait que le riz, il y a des petits problèmes avec l'arsenic. Ça peut, le cardio peut être intéressant. Alors je dis pas que c'est magique, hein, il faut faire attention. L'étude a dit pas du tout que c'est le traitement miracle, mais ça dit quand même qu'il y a quelque chose de positif par rapport à l'évacuation. J'aime pas dire encore ces mots-là, c'est mon interprétation, mais d'améliorer la teneur en métaux lourds, donc améliorer dans le bon sens, c'est-à-dire la diminuer en faisant un sport cardiovasculaire. Donc au-delà de la perte de graisse, au-delà de la santé cardiovasculaire, etc., il y a quand même quelque chose d'intéressant à voir dans cette étude qui est que l'entraînement de type cardiovasculaire est potentiellement intéressant, en tout cas pour le statut des individus en métaux lourds, enfin en tout cas pour ceux-là, arsenic, beryllium, cadmium et le plomb. Donc voilà pour les petites news que j'avais à vous donner. Maintenant, il y a autre chose que j'aimerais développer avec vous. C'est quelque chose que j'ai vu récemment sur... Alors, c'était un reportage d'une chaîne suisse qui parlait, en fait, des parcours caloriques. Alors, il y en a plein, là, ils vont se dire, mais de quoi ils nous parlent? C'est quoi le parcours calorique? Beaucoup de personnes, quand on parle de parcours calorique, ils vont penser à, je sais pas, un circuit sur sa montre connectée pour brûler des calories, etc. Non, c'est pas du tout ça. En fait, c'est... vous savez, par rapport à ce que vous faites au quotidien, donc par exemple quand vous allez au bureau, je pense surtout aux personnes qui habitent en ville et qui vont travailler, enfin pas forcément, mais des personnes qui font un trajet au quotidien pour aller bosser, qui passent par la ville ou en tout cas des zones, etc. Vous avez un parcours calorique, ils appellent ça comme ça, mais en fait finalement c'est des endroits où vous allez potentiellement être attiré ou pas par de la malbouffe, en gros. Donc admettons, si vous travaillez à 5 km de chez vous, si on pouvait tracer le parcours, donc comme sur un GPS, comme sur Google Maps par exemple, si on pouvait tracer le parcours de chez vous jusqu'à votre lieu de travail, eh ben il y aurait des points rouges aux endroits où il y aurait des boulangeries, des fast-food. Pour pousser plus loin encore, des endroits où il y a des zones de publicité. Donc par exemple des abribus, etc., on vous mettrait des hamburgers, on vous mettrait des barres chocolatées, des trucs comme ça devant les yeux. Des endroits pareils où si vous passez à une station essence et qu'il y a des distributeurs de canettes de soda, de tous ces trucs là. Et ça, en fait, c'est un parcours calorique. Donc vous allez avoir sur un parcours de 5 km, je sais pas, peut-être 10, 20, 30 opportunités de manger de la malbouffe, en fait de manger des choses qui vont vous rendre gros et en mauvaise santé, entre guillemets, si vous en abusez. Et en fait, il y a un projet, alors si j'ai bien compris, il y aurait un projet d'application smartphone qui serait en développement, et là qui est un peu retardé par rapport au Covid, mais je vois pas pourquoi d'ailleurs, puisque c'est du travail à domicile qu'on peut faire, du développement comme ça, mais qui, moi je trouverais intéressant, alors là s'il y a des développeurs qui m'écoutent, je trouverais ça intéressant de se rapprocher je crois que ce sont des Suisses qui font ça. Hein. J'ai pas le nom malheureusement, mais il y a un reportage sur 36, vous savez la chaîne suisse 36.7 ou 36.9, je sais plus comment ça s'appelle sur YouTube. Enfin, vous chercherez, vous trouverez. Et en fait, si des développeurs pouvaient s'intéresser à ça vraiment concrètement, l'idée, enfin moi, ce que je vois d'intéressant là-dedans, c'est quoi? C'est vous rentrez un itinéraire. Donc, admettons, vous allez, je sais pas, à votre travail, ou vous allez à un rendez-vous. Vous êtes une personne sensible à la malbouffe, donc c'est-à-dire que vous avez du mal à vous retenir, etc. Et ben l'itinéraire que vous choisissez, donc il va vous dire attention, 10 zones potentiellement caloriques, donc vous allez potentiellement pouvoir craquer. Nous vous proposons 3 itinéraires supplémentaires, un qui vous rallonge de 1 minute, un qui vous rallonge de 5 minutes, un qui vous rallonge de 10 minutes. Moi, je vois 2 effets positifs à ça. Premier, c'est qu'on évite la stimulation visuelle, les odeurs, etc. Et le son d'ailleurs, parce qu'il y a certains endroits où des personnes viennent vous voir dans la rue pour vous faire goûter des choses et tout. Donc, on peut éviter ça. Donc pour les personnes un peu fragiles en début de régime, les personnes obèses et tout qui veulent vraiment améliorer leur santé, commencer un régime, ça peut être intéressant. Deuxième chose, c'est que l'itinéraire potentiellement pourrait être un petit peu plus long. Et donc un petit peu plus long voudrait dire un petit peu plus de marche, donc un petit peu plus de dépenses caloriques. Et je trouve un petit peu le double effet qui se coule, quoi, quelque chose de plutôt positif de ce côté-là. Après, moi je pense aujourd'hui que c'est un petit peu compliqué. Pourquoi ? Parce que, enfin, au niveau développement du logiciel, ça doit être facile, hein, parce qu'aujourd'hui, Google Maps et tout, il y a des plateformes qui sont open source. Donc, du coup, étant donné Google Maps est relié avec Google Business, c'est-à-dire que, par exemple, demain, si vous ouvrez un McDonald's, un KFC, une boulangerie, toutes ces choses-là, en règle générale, vous allez vous répertorier sur Google et on va vous demander une adresse. Cette adresse sera localisée sur Google Maps. Donc, du coup, toutes ces données sont possibles. Si jamais, aujourd'hui, on tape fast-food sur Google Maps, on va avoir tous les fast-food autour de nous, donc ils sont déjà localisés. Donc il suffirait qu'une application récupère ces données-là, donc ces données de localisation de fast-food, de boulangerie, de choses comme ça, et fasse en sorte de vous créer un itinéraire qui ne passe pas devant, tout simplement, ou qui passe à côté, qui circule et tout. Mais la problématique, elle n'est pas là. Parce que tout ça, au niveau logiciel, je pense qu'un développeur dirait c'est relativement simple. Pardon. Par contre, ce qui est compliqué, c'est que si on est à pied en ville, qui aujourd'hui a son téléphone à la main ? Donc, c'est-à-dire que qui va suivre un itinéraire avec son téléphone à la main, va à droite, va à gauche. Donc, c'est là où ça devient un peu complexe. Ça peut devenir intéressant pour ceux qui ont, par exemple, vous savez, les montres connectées avec des GPS. Donc, là, c'est beaucoup plus simple. On regarde sa montre, tiens, il faut que je tourne à droite ou à gauche. Ou également des gens qui pourraient avoir des AirPods ou des écouteurs en marchant. Donc, du coup, ça leur permet d'avoir les indications. Là, vous prenez à droite, à gauche, etc. Moi, je pense que ça deviendra vraiment intéressant quand les lunettes connectées seront vraiment opérationnelles. C'est-à-dire des petites lunettes, quand ça sera au grand public, par exemple. Moi, je pense que dans un certain nombre d'années, on pourra avoir nos lunettes de vue classiques, donc de vue ou de soleil, et on pourra choisir des verres connectés qui auront cette petite fonction forcément reliée à Google, étant donné que Google est partout maintenant. Et d'ailleurs, ça fait débat et je le comprends, mais il y aura ces indications, ce sera beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de sortir sa montre ou de regarder son téléphone pour se guider. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu la limitation aujourd'hui, c'est que qui va regarder son smartphone pendant qu'il marche pour se guider ? On le fait tous quand on cherche quelque chose, mais là, vraiment, dans le quotidien, pour éviter de passer devant des fast-food et tout, c'est compliqué. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la recherche, alors il y a des gens qui font des recherches là-dessus, ils appellent ça la géo, je sais plus comment, c'est des gens qui ont démontré, hein, que quand on était fortement stimulé, où on avait souvent des itinéraires où on passait devant toutes ces choses-là, eh ben on mangeait plus de malbouffe, entre guillemets, et donc du coup c'était potentiellement moins bon. Mais également ce que j'avais trouvé, c'était pas bon quoi, hein, ce que j'avais vu aussi, c'est que vous savez, on parle beaucoup des quartiers, des zones industrielles, vous savez, ou alors des quartiers un petit peu populaires où il y a beaucoup de surpoids et de malbouffe, et on incrimine souvent que c'est dans ces zones-là où est implanté des KFC, des Quick, des Quick, je sais même pas si ça existe encore, des Burger King, des trucs de tacos, des McDo, toutes ces choses-là. Alors oui, c'est vrai, mais il y a une deuxième chose aussi. C'est que souvent dans ces quartiers, etc., il y a des commerces de proximité, des petits commerces. Alors moi, j'y suis allé assez régulièrement dans ce genre de petits commerces. Vous savez, que ça soit des épiceries jour-nuit, ouvert 24/24, les week-ends et tout ça. Donc des petits commerces d'appoint comme ça. Allez voir à l'intérieur, il y a très peu de produits frais et c'est beaucoup de saloperies. Donc, et en plus à prix d'or. Faut savoir qu'une épicerie comme ça, ça gagne. Enfin, les patrons vivent relativement bien quand ils, parce que les prix, vous avez déjà vu, c'est abusé quoi. C'est assez cher. Ça dépanne dans des moments où tout est fermé, mais les prix sont assez élevés. Mais c'est surtout qu'il y a peu d'aliments de bonne qualité. Mais également, les personnes, les témoins disaient qu'ils avaient moins accès aux produits frais. Donc, par exemple, de la viande, du poisson, des œufs et des légumes de bonne qualité. Donc, ils vont se reporter sur des aliments préparés, transformés, etc. Donc, du coup, potentiellement, c'est également un facteur de malnutrition. Qui dit malnutrition, souvent, ça veut pas dire sous-nutrition, ça veut dire aussi qu'on va manger des aliments trop denses, trop peu riche en micronutriments positifs, enfin, en tout cas nécessaires au fonctionnement de l'organisme. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il y a ce problème d'accès à la nourriture de bonne qualité dans des zones, moins fréquentées, etc. Vous savez, prenez un exemple. Alors, je suis pas parisien, je vis pas à Paris, etc. Mais on voit un petit peu quand on regarde sur des reportages, etc. Ces rues où il y a des magasins bio, des trucs un petit peu du terroir, etc. Donc la petite fromagerie, la petite boucherie, le petit primeur et tout. Vous regarderez dans ces endroits-là, il y a jamais de fast-food, il y a jamais de tacos et tout ça. Et à l'inverse, dans les zones où il y a des tacos, où il y a des fast-food et tout, il n'y a pas ce petit truc-là. Donc, forcément, si vous habitez dans un quartier ou quand vous descendez de chez vous, ben vous avez la fromagerie du coin, vous avez le boucher, vous avez le petit boulanger qui fait son pain avec du levain au levain et pas à la levure. Enfin voilà, de l'artisanat pur de meilleure qualité, le petit primeur et tout ça. Forcément, à côté de vous, vous avez du top du top. Donc ça va être beaucoup plus facile pour vous de consommer des bons aliments. Et effectivement, il y a aussi une question de budget, hein, parce que c'est pas le même prix. Mais si par contre vous descendez de chez vous et la première chose en bas de chez vous, c'est quoi? C'est une pizzeria, un tacos ou autre. Ben potentiellement, vous allez avoir plus de chances de consommer ce genre de choses. Donc je dis pas qu'il faut mettre. Et surveillez bien une chose, c'est que vous verrez jamais un tacos, un McDo et tout ça dans les quartiers un petit peu bobos. Pourquoi? Parce que forcément, si on garde ces choses loin de ces quartiers, on garde aussi la jeunesse, les ados, ce qui pourrait déranger en fait un petit peu loin de ces endroits-là. Parce qu'on sait très bien que quand on met des fast-food et tout, ça va attirer les ados, les jeunes qui vont venir en mobylette, en mobylette, je sais pas si ça existe encore, mais en scooter. Ou en voiture qui est bruyante et tout ça, et ça va déranger l'environnement. Voilà, les gens n'osent pas le dire, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est qu'en refusant d'implanter ce genre de choses à ces endroits-là, ça maintient un certain ordre entre guillemets. Et à l'inverse, les gens savent que dans les quartiers populaires, etc., s'ils vont inclure des choses comme ça, les gens ne viendront pas forcément parce que, c'est pareil. C'est par rapport à, ils vont être au milieu de jeunes et tout, ils vont pas être à l'aise entre eux et donc du coup, c'est pas top. Et là, je trouvais ça intéressant dans le reportage parce que à un moment donné, ils montraient un quartier, un lotissement, je sais pas comment, enfin c'est pas un lotissement parce que c'était des tours, c'était des immeubles quoi. Et au milieu, vous savez, au milieu des parcs, au milieu des tours comme ça, souvent vous avez des petits parcs avec des aires de jeux pour les enfants, un petit peu de verdure. Moi, je me rappelle quand j'avais été à Paris, à côté de Fleury-Mérogis, là, chez mon oncle, j'étais allé me promener un petit peu quand j'étais ado, un petit peu dans les quartiers. Et il y a toujours ces petits espaces verts, en tout cas, pas forcément toujours entretenus, mais il y avait quand même des petits espaces verts, des petites allées avec des bancs entre les tours. Et là, il y en a qui avaient mis à ces endroits-là des sortes de jardins partagés. Donc, les jardins partagés, moi, je trouve que c'est intéressant dans le sens où ça m'appartient pas à une personne. Forcément, si on y donne accès que à, je sais pas, quelques personnes, ça va être vandalisé. Jalousie, etc. Mais par contre, si tout le monde peut amener un petit peu sa petite contribution, les enfants arrosent, les mamans entretiennent, les papas font les clôtures et tout ça. Enfin, il peut y avoir une forme d'écosystème entre guillemets. Enfin, tout le monde met un peu la main à la pâte. Il y aura pas de destruction, etc. Enfin, je suis un peu naïf, hein, je suis un peu utopiste, mais ça demanderait être testé parce que là, dans le reportage, en tout cas en Suisse, Peut-être qu'il y a plus de respect en Suisse, mais ça avait l'air de fonctionner et je trouvais ça plutôt intéressant comme approche. Il y en a qui vont me dire ouais mais bon les légumes de la ville, merci j'en veux pas. Ouais mais il faut se dire qu'il y a des gens qui peuvent pas se le permettre de se payer des choses déjà qui ont pas les moyens de se rendre sur les lieux où ça se fabrique. Enfin, ça se fabrique, ça se vend, parce que ils doivent prendre, je sais pas combien de rames de métro ou de taxis, des machins pour aller dans les zones où ça se vend. Et même s'ils y arrivaient, bah, au niveau budget, ils pourraient pas se le permettre. Là, ça permet quand même d'avoir quelque chose de plus sain que l'épicerie du coin, quoi. Et l'épicerie du coin, bah, pourrait se permettre même d'avoir, je sais pas, de financer ça et puis d'en proposer, d'en vendre. Enfin bon, je sais pas, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Je sais que moi, dans le sud de la France, ça se fait beaucoup. Alors pas n'importe où, mais il y a beaucoup de jardins partagés de personnes qui ont leur propre petit potager. Quand ils vivent dans un appartement, eh ben ils ont leur petit potager dans des jardins partagés à droite et à gauche. Ça peut être vraiment une bonne solution. Alors à la fois pour alors je sais pas si au niveau économique c'est hyper rentable. Moi je pense que oui, on s'y retrouve quand même. Mais bon, ça occupe déjà. Ça occupe d'une manière un petit peu plus positive. Ça fait vivre un petit peu la terre aussi, parce que faut savoir une chose, c'est que un ballot de terre, quand vous le faites vivre comme ça avec de la bouffe et tout, alors ça appauvrit un petit peu, mais ça renouvelle aussi. C'est quand même plus sain. Et puis, ben voilà, ça vous permet déjà d'apprendre, parce que beaucoup de personnes ne savent pas s'occuper de végétaux comme ça, mais ça permet aussi de s'alimenter, quoi. Et puis vous savez, enfin, je sais pas si vous avez des pieds de tomates, ne serait-ce que ça, chez vous, mais de cueillir ses propres tomates, c'est quand même jouissif, quoi, d'avoir sa propre petite production en local, même si c'est une dizaine par an, vous avez l'impression d'être surpuissant. Donc il y a quand même ce côté, moi je trouve, retour à la terre. Et dans des environnements qui s'y prêtent pas forcément, et où les gens voient souvent où c'est blanc ou c'est noir, c'est-à-dire que ben voilà, vu qu'il y a la pollution, on le fait pas. Je suis pas forcément d'accord, parce que quand vous allez faire votre petit marché en plein centre-ville, ben je pense que ça a été aussi tapissé de pollution et vous les mangez quand même. Donc bon, faute de mieux, en attendant, ça vous permet quand même d'avoir des légumes et tout, d'occuper et peut-être de permettre un petit peu moins d'ennuis à certains endroits où des personnes tourneraient un petit peu en rond et seraient un peu victimes de manger ce qu'on leur proposerait à l'épicerie du coin. Voilà. Bon, je pense que c'est... je suis très utopiste, mais pourtant, c'est pas mon tempérament. Mais ça peut être des pistes, si ça peut être amené... Alors déjà, une chose qui était bien, c'était d'amener dans ces parcs-là, d'amener du matériel de fitness. Ça a été plus ou moins développé. Donc des barres de traction, des trucs à dips et tout. Très bonne chose, très très bonne chose. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Et là, on peut pousser un petit peu le truc un peu plus loin en travaillant avec ça, quoi. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Et ce côté application pour le parcours calorique me parle beaucoup aussi. Après, je demande à voir à quoi ça va ressembler. Et je pense que à terme, si vraiment on veut faire les choses correctement, faudrait que ça soit du natif, ça serait inclus à Waze, inclus à Google Maps, inclus à son système de navigation en fait, et de cocher par exemple par défaut, voulez-vous par exemple, comme voulez-vous éviter les routes avec péage, ben voulez-vous éviter les endroits où il y a trop de publicité. Alors ça pourrait être pas forcément la bouffe, mais tout en fait, la publicité. Avez-vous envie d'éviter la publicité? Alors c'est pas sur votre écran de téléphone, hein, mais sur votre parcours, c'est-à-dire de ne pas passer devant les abribus, en fait devant les zones où potentiellement il y a beaucoup de supports publicitaires. Moi je trouve ça intéressant. Là tous ceux du marketing vont me dire celui-là faut aller lui couper les genoux, mais je trouve ça intéressant de ce genre de fonction, parce qu'on s'en plaint beaucoup d'être victime de la pub, d'être victime de la malbouffe et tout. Mais voilà, ce genre de solution, je pense que ça peut commencer à faire réagir les gens. Et à faire aussi réagir ben, ceux qui font les pubs, de les faire un peu plus soft, ou alors d'avertir un petit peu plus la populace, quoi. Voilà, je m'arrête ici. Merci à tous. Alors pour ceux, comme je disais tout à l'heure, qui ont envie de revisiter avec moi 14 recettes, les plats préférés des Français, de les revisiter en version un peu plus saine, eh ben, allez voir le lien que j'ai mis dans les notes de cet épisode. Très bonne semaine à tous. Bye bye.
Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.